VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Dakar, 14h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. On commence par l'Afrique de l'Ouest. Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari, qui brigue un second mandat aux élections du 16 février, a assuré lors d'un débat télévisé mercredi soir être suffisamment en forme pour diriger son pays, un géant pétrolier de 180 millions d'habitants, malgré les critiques sur sa santé et son âge avancé. Le chef de l'État, 76 ans, et officiellement candidat à la présidence de l'APC, le Congrès des progressistes au pouvoir, a passé au moins 9 mois à Londres pendant son mandat en cours où il a été soigné pour une maladie non révélé au grand public. C'est la 5e fois que Muhammadu Buhari se présente à une élection présidentielle après ses échecs de 2003, 2007 et 2011 et sa victoire historique en 2015 où il est devenu le premier candidat de l'opposition à remporter la présidence dans l'histoire du pays. Les élections générales du 16 février s'annoncent serrées entre l'APC et le PDP, le Parti démocratique populaire de son principal opposant Atiku Abubakar. 72 ans. Afrique de l'Ouest toujours, la Cour pénale internationale, CPI, a suspendu mercredi soir la remise en liberté de l'ancien président de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, après un nouvel appel déposé par le procureur au lendemain de son acquittement. Les précisions de Jean-Roger Bion.
Les juges avaient ordonné hier, plus tôt dans la journée, sa remise en liberté ainsi que celle de son bras droit, Charles Blé Goudé, ex-chef du mouvement des jeunes patriotes, après leur acquittement d'accusations de crimes contre l'humanité. Mais selon la CPI, les deux hommes doivent maintenant rester sous la garde de la cour jusqu'à ce que l'appel du parquet contre leur libération soit entendu. En attendant la décision de la chambre d'appel sur l'appel du procureur, Messieurs Gbagbo et Blé Goudé resteront sous la garde de la CPI, a indiqué un porte-parole de la cour basée à La Haye. Dans un premier temps, la chambre de première instance avait pourtant constaté qu'il n'y avait pas de circonstances exceptionnelles allant à l'encontre de la mise en liberté de M. Laurent Gbagbo et de M. Charles Blé Goudé suite à leur acquittement mardi. En détention depuis plus de 7 ans, Laurent Gbagbo était jugé pour des crimes commis pendant la crise post-électorale de 2010-2011. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé étaient accusés de 4 chefs de crimes contre l'humanité, meurtre, viol, persécution et autres actes inhumains pour lesquels ils ont toujours plaidé non coupables. L'annonce de l'acquittement de Laurent Gbagbo avait provoqué des scènes de liesse chez leurs partisans en Côte d'Ivoire, mais aussi un appel des autorités à garder de la compassion pour les victimes et susciter des critiques de la CPI qui subit un nouveau camouflet.
La Cour pénale internationale a donc suspendu hier la remise en liberté de l'ex-président Laurent Gbagbo après un nouvel appel déposé par le procureur au lendemain de son acquittement. La plupart des tentatives de la CPI de juger des personnalités politiques de haut rang, presque tout en Afrique, se sont terminées par des échecs ou des acquittements. C'est notamment le cas pour l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba en juin 2018 et maintenant pour Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Faut-il douter donc de l'efficacité de la CPI? Éric Manirakiza a joint à Ouagadougou l'analyste politique Ismaël Diallo.
L'interrogation a une réponse claire. C'est son, non pas son inefficacité, mais son échec, double échec cuisant. Et c'est à se demander franchement pourquoi cet instrument existe et s'il n'existait que pour les Africains, et même si c'était que pour les Africains, ceux dont beaucoup se défendent, il prouve néanmoins qu'il n'est pas compétent, qu'il n'est pas capable de faire correctement son travail. Mais en réalité, ce n'est pas une question de compétence. Pire que cela.
Pour vous, est-ce du prêt-à-porter politico-judiciaire?
C'est un instrument politique. Contre ce que la France et l'Europe ne veulent pas, les Africains que la France et l'Europe ne veulent pas voir aux affaires, et au bénéfice des suppôts de ces forces, y compris des complicités africaines. Et c'est ce qui s'est passé ensuite avec Kadhafi. Il y a un minimum de justice qu'il faut à tous les échelons. Dans ce cas particulier de Gbagbo, il n'y a pas eu de justice en vérité. Il y a eu une opération militaire dirigée par la France contre Laurent Gbagbo. Il y a eu un enlèvement par les troupes françaises de Laurent Gbagbo. Il y a eu un emprisonnement et il y a eu un enlèvement et un transplantement forcé de Laurent Gbagbo à la CPI. On peut entourer cela de toutes les facettes que l'on veut. La réalité est que c'était la politique du plus fort, c'est-à-dire la politique de la France avec Alassane Ouattara et d'autres.
Problème d'efficacité, mais peut-être une juridiction nécessaire.
Je ne sais pas si c'est une juridiction nécessaire. Nous, Africains, avons prouvé que si nous voulons, nous pouvons faire justice. Le cas Hissène Habré, les cas pendants ou qui ne sont pas encore à l'ordre du jour, ne le sont pas simplement parce que nous n'avons pas encore décidé d'en faire quelque chose, comme le cas de Yahya Jammeh de la Gambie. Le jour où la CEDEAO décidera de le traîner en justice, il sera traîné en justice, que son protecteur de la Guinée équatoriale le veuille ou non.
Est-ce que ces échecs ne relèvent pas de la faiblesse de l'accusation?
Je ne pense pas que la faute soit à la procureure elle seule. C'est vraiment tout le système.
Le fait que les juges peuvent dire le droit, ça montre que c'est quand même une juridiction indépendante.
Elle est peut-être indépendante pour les faibles, mais elle n'est pas pour les puissants. Il ne faut pas se faire d'illusions. C'est le monde de la puissance, c'est le monde de l'argent, c'est le monde d'influence. C'est un jeu d'échecs.
L'analyste politique burkinabé Ismaël Diallo à Ouagadougou au Burkina Faso.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, des centaines de morts dans le massacre de Yumbi, selon un communiqué du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme. Cet organisme onusien affirme qu'au moins 890 personnes ont été tuées entre le 16 et le 18 décembre dans quatre villages du territoire de Yumbi, dans la province de Maïndombe, à plus de 300 kilomètres au nord de Kinshasa, suite à des affrontements entre les communautés Banounou et Batende. Élections en RDC maintenant, un certain nombre de leaders africains comptent se réunir ce jeudi au siège de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie pour discuter des élections dans le pays. Les perspectives avec Abdourahman Dia.
Cette réunion a été convoquée par le président rwandais Paul Kagame, président en exercice de l'organisation panafricaine, pour encore un mois. D'après Eba Kalondo, porte-parole de la Commission de l'Union africaine, cette réunion s'inscrit dans le cadre des efforts menés par les Africains pour aider les acteurs politiques et la population de la RDC à mener à terme le processus électoral. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé sa présence, mais on ignore quels autres dirigeants feront le déplacement. La commission électorale a proclamé l'opposant Félix Tshisekedi vainqueur du scrutin présidentiel avec 38,57% des voix contre 34,8% pour l'opposant Martin Fayulu qui a saisi la justice le samedi 11 janvier. M. Fayulu parle de coup d'état électoral et affirme avoir remporté le scrutin avec plus de 60% des suffrages. La Cour constitutionnelle a 8 jours pour rendre son verdict. Si cette juridiction confirme les résultats proclamés par la CENI, la prestation de serment du nouveau président aura lieu le 22 janvier.
Tchad, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou se rend dimanche à N'Djamena, la première visite d'un chef de gouvernement de l'État hébreu dans ce pays africain à majorité musulmane avec lequel Israël s'apprête à renouer des relations diplomatiques. C'est ce qu'a fait savoir la primature israélienne ce jeudi. La visite, qui ne devrait durer qu'une journée, fait suite à celle du président tchadien Idriss Déby Itno en Israël en novembre. Benjamin Netanyahou avait alors annoncé son intention de faire état du rétablissement des relations diplomatiques entre Israël et le Tchad lors d'un prochain voyage à N'Djamena. Les relations diplomatiques en israélo-tchadienne ont été rompues en 1972. Benjamin Netanyahou est engagé dans une campagne active pour nouer ou renouer des liens, y compris en Afrique, avec des pays refusant de reconnaître Israël ou ayant pris leur distance par rapport à l'État hébreu à cause du conflit avec les Palestiniens. En novembre, Benjamin Netanyahou et Idriss Déby Itno avaient refusé de dire si leurs discussions incluaient des accords d'armement. Mais pour faire face à des rébellions dans le nord et l'est du Tchad, l'armée tchadienne et l'Agence nationale tchadienne du renseignement se sont équipés de matériel militaire israélien. C'est ce qu'ont indiqué à l'AFP des sources sécuritaires tchadiennes. République centrafricaine, la ville minière de Bakouma dans le sud-est du pays attaquée par deux groupes armés fin décembre et connue pour ses importants gisements d'uranium, a été reprise par les autorités centrafricaines mercredi. C'est ce qu'a indiqué Pierre Pierre Benguer, préfète du Mbomou, la région comprenant la cité minière. Madame Benguer a ajouté que le Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique, l'un des principaux groupes armés issus de l'ex-coalition Séléka qui a pris Bangui en 2013, a quitté la ville. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com.